Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation de ce jour. Merci pour ces louanges à la gloire de notre Seigneur. Et merci aussi d'avoir pensé à avoir accompli votre devoir de citoyen. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à participer aux élections pour le futur président de la République. Le titre de notre réflexion de cet après-midi, il y a plusieurs clins d'œil. Un clin d'œil à un feuilleton que j'ai regardé il y a quelques années, c'était La croisière s'amuse. Et en fait, ce qui a mené ma réflexion de ce jour, c'est... Cette année, nous avons fêté un anniversaire, ce mois-ci, un anniversaire. C'est quoi ? Le Titanic. Ouais. Donc avant de rentrer dans un texte qui fera l'objet de notre réflexion, donc aujourd'hui les questions de bateau, les questions de croisière et les questions de tempête. Vous savez que le naufrage du Titanic a mis fin à la traversée inaugurale, hein, sa première traversée. Il n'avait pas encore eu le temps de rouiller, qu'il était déjà au fond de l'eau. Hein, qui devait relier Southampton à New York. Et il se déroule, ce naufrage, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, dans l'océan. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en ayant vu le film et tout ça, le navire heurte un iceberg sur tribord, donc sur la partie droite du bateau, hein, à 23h40, et il coule en moins de 3 heures. Il y a eu entre 1490 et 1520 morts sur les 2200 personnes. Donc je passe sur le reste, mais ce qui m'avait marqué, notamment, pourquoi le Titanic a coulé ? Bon, vous me direz, ben oui, il a heurté un iceberg, la coque s'est fendue et il a coulé. Mais... Il y a eu cette phrase d'un des responsables qui disait ben même Dieu ne pourrait pas couler le Titanic, tellement ce bateau tellement il avait qualificatif, puissant, quasiment insubmersible. Hein, on pensait que c'était un sous-marin sur l'eau, hein, le Titanic. Et en fait, de l'eau, hein, simplement de l'eau, a fait couler ce bateau. Ferme la parenthèse sur le Titanic. Moi, j'aimerais lire avec vous quelques autres versets dans Marc, au chapitre 6, qui parle encore de bateau. Et c'est ces versets sur lesquels nous allons nous attarder davantage. Mais nous reviendrons, bien sûr, hein, sur les versets que nous avons lus tout à l'heure dans Marc 4. Donc dans Marc 6, à partir du verset 45, aussitôt après avoir discuté avec la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, même renverrait la foule. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc là, en quelques phrases, il y a énormément d'enseignements. Souvenez-vous, quand nous avons parlé de la résurrection, ben, il y a un mot qui est encore revenu, c'est « ils doutaient ». Ils étaient encore dans, là, ils étaient déjà dans le doute. Hein. Et ils n'avaient pas compris. Ils étaient à côté de Jésus, ils ont vu, ils ont entendu. Juste avant, il y a quand même eu la multiplication des pains. Donc c'est quand même eux, les disciples, au premier rang. Donc, il y a eu 5000 personnes, 5000 hommes. Hein. Il n'est même pas parlé de femmes et d'enfants. 5000 hommes, puis 3000 hommes. Et ils ramènent quelques pains, quelques poissons, et intellectuellement, une personne s'est posé la question, mais comment on a fait pour nourrir tant de personnes avec si peu de choses, enfin. Bref. Jésus, le matin de cet épisode, avait appris, si on avait lu les versets avant, la mort de Jean-Baptiste. Et Jean avait un lien de parenté avec Jésus, hein, souvenez-vous. Hein. C'était même celui qui l'avait baptisé d'eau. Il avait 30 ans. Jean mourut la tête tranchée à cause d'un homme puissant, lâche et inconséquent. En cadeau, il a offert la tête de Jean-Baptiste en cadeau à ses proches. Jean était un véritable homme de Dieu, un prophète consacré et dévoué. Que Jésus aimait et admirait. Jésus avait même dit de lui, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. » Dans Psaume, au chapitre 116 et au verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. » Alors, pourquoi on va parler de ça en cet instant? C'est pour revenir à ça. « Mais Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de périr ?» Est-ce qu'on peut imaginer que Jésus allait laisser la barque couler et les gens qui étaient avec lui mourir ? Pourquoi ce récit ? Pourquoi cet épisode ? La première chose, c'est que Jésus connaît nos limites. Jésus est conscient de la fatigue morale et physique de ses disciples qui sont autour de lui. Il est conscient aussi de nos fatigues, de nos peines, de nos soucis. Il voit le temps et l'énergie que nous déployons pour le servir et lui être fidèle malgré des circonstances qui sont parfois difficiles, qui ne sont pas favorables, malgré le péché, malgré l'injustice qui nous entoure. Là, Jésus veut mettre ses disciples à part. Il dit, oh, partez devant. Ah, vous avez bien travaillé. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous êtes toujours en train de courir par-ci, par-là, pour accueillir les gens, pour discuter. Là, on peut très bien imaginer la scène. Donc Jésus veut mettre ses disciples à part, pendant que lui-même se charge de renvoyer la foule. Jésus sait que son temps est compté, donc il ne gâche aucun moment. Il saisit chaque opportunité pour enseigner, pour guérir, pour exhorter. Souvenons-nous, Jésus est venu pour qui ? Mais pour ceux qui souffrent, pour les victimes du péché, pour ceux qui ont besoin de délivrance, de guérison, d'espérance. Il est venu pour délivrer les injustes, les lâches, les adultères. Il est venu pour délivrer les hommes cruels et insouciants. Souriez pas les filles, hein, parce que quand on parle de l'homme, hein, c'est la créature, hein, d'accord ? Il n'est pas venu pour les justes. Jésus n'est pas venu pour les justes. Quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Or, si Jésus est venu, c'est parce qu'il y a beaucoup de malades. Dans Marc, au chapitre 2, au verset 17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et moi, dit Jésus, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et en plus, ses disciples, enfin certains de ses disciples, sont pêcheurs eux-mêmes, du métier de la pêche, hein. Des pêcheurs. Jésus ne peut résister à la foule qui vient à lui. Quand quelqu'un vient à lui, Jésus ne tourne pas les talons et ne s'en va pas. Et malgré la fatigue, malgré les pressions, il enseigne la foule, il la nourrit, il la guérit, il la délivre. Donc il envoie ses disciples, il renvoie la foule et il est dit qu'il se met à part pour prier, seul. Jésus aime bien prier seul, s'entretenir seul avec Dieu. Parce que Jésus aussi avait un corps, subissant la fatigue, la chaleur, la faim, la soif, il ne faut pas oublier. Il avait aussi des sentiments, des émotions, et pas seulement de la compassion. Quelques extraits, Jésus a pleuré. Des larmes ont coulé sur son visage. Jésus s'est, on va dire, emporté, s'est mis en colère. Ce ne sont pas des sentiments humains. Les disciples, quant à eux, devaient dire, ouf, enfin, on va pouvoir se reposer. Là, on part loin de la foule. On va pouvoir prendre du repos. On a mal partout. On est bien rempli de bénédictions. Et la nuit tombe, les disciples sont seuls, loin de Jésus, et la tempête se lève. Alors ils rament, mais ils n'avancent pas beaucoup apparemment. Est-ce que nous n'avons jamais connu, ou par l'impression de vouloir avancer, et avoir le sentiment que c'était tellement dur que je recule? J'arrive pas. La montagne est trop haute, la vague est trop haute, le vent est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait Jésus pendant que ses disciples, ils sont en train de ramer? Je ne parle pas de ces versets-là que nous avons lus tout à l'heure, mais ceux que nous avons lus après. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus, il est sur la montagne en train de prier. Eux, ils sont en train de se débrouiller tout seuls. Hé, Jésus, tu les envoies, le vent se lève, ils rament, ils n'y arrivent pas, et qu'est-ce que tu fais? Jésus est au calme. Mais la Bible précise, il les voit. Il les voit au milieu du lac. Il sait ce qui se passe. Parfois, quand nous sommes dans les difficultés, quand on a l'impression on est dans la tourmente, là, oh, je comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, mais où est Jésus? Je tourne la tête, je fais 360 degrés sur moi-même, je ne vois pas Jésus, je ne le sens pas, je ne l'entends pas. Où est-il? Il est parti sur notre montagne. Mais c'est un peu comme les parents. Les parents veillent sur leurs enfants, mais n'interviennent pas systématiquement dès qu'il y a qui se passe. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous avez forcément compris ce que je viens d'illustrer. Jésus n'intervient pas la première vague dans ce que nous avons lu et dans les versets d'introduction. Mais il veille. Jésus n'intervient pas non plus à la première frayeur de ses disciples, ni à la première difficulté. Ils sont en train de ramer, c'est dur, mais il faut ramer. Vous savez que Dieu nous observe. Dans les difficultés, il nous observe. Voilà ce qui se présente à toi. Je vais voir comment tu vas réagir en fonction de ce que je t'ai déjà montré. Si tu as appris ce qui s'est passé avant, tu vas gérer la situation. Si tu n'as pas appris, pas retenu, pas compris, mal compris, tu seras perdu. Donc Dieu nous observe. Ce ne veut pas dire qu'il ne prend pas soin de nous. Et là, vers 3 heures du matin, hein, à la quatrième veille de la nuit, Jésus vint à eux. Alors moi, il y a un mot dans le verset 48, donc de Marc 6. Donc, à la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Alors, effectivement, je n'avais pas forcément prêté attention à ces petites choses. Et après, je me dis, mais pourquoi Jésus voulait les dépasser ? Jésus avance vers ses disciples en marchant sur l'eau. Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'il voulait gagner du temps et que marcher directement sur l'eau allait plus vite que de prendre une barque. Ou peut-être parce que les disciples avaient pris la seule barque disponible. On ne sait pas. Mais Jésus va à la rencontre des disciples en difficulté. Mais il veut les dépasser. Alors, il n'a pas seulement l'intention de monter dans la barque avec eux, mais il veut les dépasser. Alors, là, il faut comprendre, en fait, que ce n'était pas pour faire la course. Hé, les gars, vous vous ramez, vous avez du mal. Moi, je marche tranquille, j'arrive à votre hauteur, je vous dépasse, je vous fais un signe de la main et je continue. Non, non, non. Cette illustration, ce n'est pas Jésus, c'est pas de montrer que Jésus est en train de faire une course, en train de narguer, entre guillemets, ses pauvres disciples qui n'arrivent pas à avancer. Non, Jésus voulait capter l'attention de ses disciples. Souvenez-vous, ils ne comprennent pas grand-chose, hein, les disciples de Jésus. Hein. Ils voient des miracles, mais ne comprennent pas. Ils voient ils entendent des choses extraordinaires, ils ne comprennent pas. Jésus voulait à nouveau leur montrer sa présence divine et sa force. Comme l'a dit d'ailleurs Job, dans Job au chapitre 9 au verset 8, « Seul Dieu marche sur les hauteurs de la mer. » Tiens, Job. Et là, après la foule, Souvenons-nous, Jésus vient de quitter la foule. Là, il a envie de montrer quelque chose spécifiquement à ses disciples. D'accord ? Jésus aurait pu calmer la mer à distance. Hop ! Un seul geste, une seule parole de Jésus suffirait. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il voulait montrer quelque chose à ses disciples. D'une part, sa divinité lui permettant de marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il leur dit aussi à un moment donné? Parce qu'ils ont peur, hein. Encore une fois, les disciples voient Jésus mais ne le reconnaissent pas, ils ont peur. C'est un fantôme. Comme quand il a été ressuscité, ils ont dit, c'est un fantôme. Ils aiment bien ce terme-là, hein, d'ailleurs. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. Ça ne vous est jamais arrivé de faire un cauchemar ? Si, je pense. Et puis d'être réveillé par quelqu'un, puis vous êtes là, oh, n'aie pas peur, c'est moi. Quelqu'un qui vous connaît, n'aie pas peur, c'est moi. C'est papa, c'est maman, c'est ma soeur, c'est mon frère. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, je suis là. N'ayez pas peur, je maîtrise la situation. Comment avez-vous pu imaginer périr alors que je m'occupe de vous ? N'ayez pas peur, au milieu de la nuit, je suis là. Au milieu de la tempête, je suis là. Au milieu des mauvaises nouvelles, je suis là. Quand je suis fatigué, quand je suis découragé, ça vous arrive jamais d'être fatigué ni découragé. Hein. Quand le monde nous oppresse, quand le travail nous oppresse, quand je me sens misérable, impuissant, quand j'ai l'impression qu'on me demande tellement de choses que je peux plus, je suis à 100%, presque. Et là, Jésus nous dépasse. Là, Jésus nous dépasse. Il montre à ses disciples qu'il s'occupe d'eux. N'ayez pas peur, il va à leur rencontre. Mais intellectuellement et spirituellement, Jésus veut dépasser ses disciples. Comment Maître, mais tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons ? Jésus est à bord, il est avec eux. Ils ont peur. Pourtant, Jésus est là physiquement. Jésus nous dépassera à chaque fois que nous avons l'impression d'avoir atteint nos limites humaines et intellectuelles. C'est l'exemple de tout à l'heure. Dans cette situation-là, je vais voir comment tu vas utiliser ce que je t'ai montré, ce que tu as appris de moi. Si c'est OK, si c'était validé, on va dire, on va passer à la marche suivante. Tout ça pour que tu puisses grandir. Pas par la taille, hein, dans le sens imagé, grandir spirituellement. Chaque fois que les circonstances nous effrayent, Jésus va nous dépasser. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que faire ? Que faire quand Jésus dit « n'aie pas peur » ? Je saisis cette parole. Ok, j'ai pas peur. Je m'attends à ce que le Seigneur montre ce qu'il va faire. Et je vais aller avec lui. Je vais participer. Je voudrais lire Matthieu au chapitre 14, les versets 24 à 32. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Hein? À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Okay? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Hein? Ça rappelle les versets qu'on a lus tout à l'heure. Mais il y a un autre petit exemple. Vous vous souvenez ? Donc ils pensent avoir un fantôme et Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent même des cris « rassurez-vous, c'est moi ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, Pierre saisit tout de suite l'opportunité de dépasser ses limites. Seigneur, ok, c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Voilà. Pierre tout de suite a percuté. Les autres, ils sont restés effrayés. Alors Jésus lui dit, ben viens. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, vous pouvez vous asseoir, monsieur. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Pierre commence à regarder ce qui se passe autour de lui. Le vent était fort et il a commencé à avoir peur. Et puisqu'il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et là, il s'est crié, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus étendit la main et le saisit. Et il lui dit, « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Là, on a un exemple complémentaire de ce que nous venons de lire. Donc, Pierre a marché sur les eaux, mais ses 11 coéquipiers n'ont pas saisi cette parole du Christ. Pourtant, Jésus veut nous emmener, nous, chacun de nous, plus loin. Plus loin, toujours plus loin. Je dirais même toujours plus haut, tout en restant sur terre. Mais ça va, j'ai les pieds sur terre, rassurez-vous. Que faisons-nous quand les ténèbres nous environnent, nous entourent? Que faisons-nous? J'ai peur. Si j'ai peur, je reste dans les ténèbres. Jésus ne peut pas... Non, je vais le formuler autrement.
Il peut tout.
Mais écoute bien. Jésus ne peut nous convaincre de le suivre plus loin. Mais nous, nous pouvons le contraindre de s'arrêter avec nous. Jésus nous tend la main. Jésus a tendu la main à Pierre. Pierre est venu. Pierre aurait pu dire, c'est bon, tu arrives Seigneur, tu as encore quelques mètres à faire et puis tu vas être avec nous. Dieu nous a créés avec une volonté et une liberté. Il ne contraint personne. Mais il invite chacun à dépasser ses limites. Dans Ésaïe au chapitre 25 au verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Un abri contre la tempête. Une aide dans la tempête. Alors, ma question dans cette illustration est image de la barque, de la croisière. Là, la croisière, elle ne s'amusait pas. Hein. Là, au début, j'étais content de j'ai fini, on a fini notre journée, ça y est, je prends la voiture, je rentre à la maison. Donc là, ils sont tous ensemble. Ils prennent la barque, ils rentrent. Au début, c'était la croisière s'amuse. Eh les gars, la journée est finie, on a un peu de liberté, on s'en va. Et puis d'un seul coup, pouf, le vent se lève, oh, le bateau commence à bouger. Et c'est la panique. Alors, dans quel état est la barque de ma vie? Continuons dans l'illustration. Est-ce que c'est une traversée tranquille à bord du Titanic, me dirigeant aveuglément vers le naufrage parce que Jésus n'est pas dans ma barque? Loin de moi la pensée de dire que dans les 1500 personnes qui sont mortes, il n'y avait pas de chrétiens. Hein. D'accord? Est-ce que... Donc dans quel état est la barque de ma vie? Est-ce qu'elle est secouée par des tempêtes diverses? Oui, probablement. Nous avons tous des tempêtes dans notre vie. Parfois courtes, parfois longues. Ça peut durer des années, parfois. Ou des petites, régulières. Est-ce que la barque de ma vie, elle prend l'eau par mes péchés? C'est pas bon non plus une barque qui prend l'eau. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand il y a plus d'eau dans la barque, ça coule. Et écoper, ça sert à rien. Ça ne sert qu'à retarder l'échéance. Il faut mettre le bateau au sec et réparer. Ou alors, est-ce que ma barque est paisible parce que je n'ai pas peur? Parce que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Je lui ai donné le gouvernail de ma barque, de ma vie. Parce que Dieu est tout puissant. Jésus, ça le dérange pas la tempête. Bon, moi j'aurais été malade, hein, parce que dès que je suis sur un bateau qui bouge, oulala. Jésus est paisible. Il dort à l'avant sur son coussin. C'est vraiment l'opposé. Quand vous imaginez l'ampleur, la, l'intensité, voilà, c'est ce que le mot que je cherchais. L'intensité de la phrase, eux, c'est la panique totale, c'est le bateau qui bouge, c'est les cris. Ils ne savent plus quoi faire. Et Jésus est dans le calme. Il se repose. Ils sont même obligés de l'appeler et de le réveiller. Hein. J'imagine qu'ils ont même été obligés de le secouer. Mais Seigneur, nous périssons. S'il y avait de l'inquiétude, est-ce que Jésus continuerait à dormir? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa, il y eut un grand calme. Ont-ils compris, les disciples, que quand Jésus est à leur côté, rien de fâcheux ne peut leur arriver? Qu'en est-il dans notre vie? Est-ce que nous savons que si Jésus est dans notre barque, il peut y avoir des tempêtes? Il y aura des tempêtes. Mais on ne va pas couler. On ne va pas sombrer. Parce que Jésus prend soin de nous. Il nous aime tellement qu'il ne permettra pas que ma barque coule. À condition de lui avoir mis notre vie entre ses mains, de lui avoir fait confiance et de ne pas avoir peur. Ne soyez pas comme Pierre. Pierre a fait un acte de foi. Il a dit au Seigneur, « Eh, chiche, moi j'y vais, toi tu marches sur l'eau ? » ?»« Ouais, moi j'y vais. » Et Jésus dit, « Oui, d'accord, tu peux le faire. Si tu crois, tu peux le faire. » Et bien Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, et ça, il a dû être tellement impressionné qu'il s'est dit, oh là là, je marche sur l'eau, mais oh là là, il y a le vent, il y a la mer. Et il a perdu Jésus du regard. Et en perdant Jésus du regard, il a eu à nouveau peur. Et il commençait à couler. N'ayons pas peur des tempêtes. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et en plus, aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Mais pour notre vie, n'ayons pas peur. La barque de notre vie est conduite, est barrée, hein, par Dieu. Dieu est à la barre de notre vie. Amen.